Lorsque vient la nuit d'Halloween, les spectres et les sorcières sortent des ténèbres pour venir troubler le commun des mortels. À la lueur vacillante des citrouilles sculptées, ils viennent arpenter les rues et se présentent parfois à notre porte. Des bonbons ou un sort, nous demandent alors ces charmantes têtes blondes déguisées qui jouent avec la peur. Reléguées aux maisons hantées de fêtes foraines et à de mignons dessins d'Halloween, les sorcières et les fantômes ont pourtant d'inquiétantes histoires à nous raconter. Quand la sensation du réel s'invite dans les légendes, le vernis enfantin craque et révèle de plus sombres récits. Oubliez les draps blancs et les boulets qui traînent, et faites une croix sur les balais qui volent à la pleine lune. Suivez-nous plutôt dans une forêt de Roumanie, ou au milieu des ruines d'un château breton, où l'étrange rôde dans chaque recoin.
Je suis Charles.
Je suis Mathias.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Oiabaciu, l'étrange forêt au cœur de la Transylvanie. En Roumanie, aux abords de la ville de Cluj-Napoca, se trouve une forêt, la forêt de Oiabaciu. De nombreuses légendes l'entourent. Ovnis, disparitions, portails vers d'autres dimensions et apparitions fantomatiques, la forêt transylvanienne aurait notamment englouti un berger et ses 200 moutons. Ces étranges phénomènes ont valu à la région le surnom de « Triangle des Bermudes roumains » ou encore de « Forêt la plus hantée du monde ». Alors la Roumanie est très connue, Mathias, toi-même tu sais, comme le veut l'expression consacrée, pour son folklore et ses légendes, particulièrement la région qui nous occupe aujourd'hui, puisque le bois se situe en pleine Transylvanie, mais ce n'est pas de vampires dont je vais vous parler maintenant. Oubliez les châteaux gothiques monumentaux que l'on trouve dans les Carpates et qui ont donné naissance au mythe de Dracula. Notre histoire se déroule au nord du pays, dans une région légèrement vallonnée, boisée, prise entre la ruralité de l'ouest et Cluj-Napoca, la grande ville la plus proche, seulement quelques kilomètres à l'est. À cette période de l'année, à l'approche d'Halloween, la température tourne autour de la petite dizaine de degrés et une brise soutenue fait tomber au sol les feuilles jaunies des arbres de la forêt. En s'accumulant, les feuilles cachent les sentiers balisés et perdent assez facilement les voyageurs distraits. Le lieu est vieux de plus de 55 000 ans. Les troncs des arbres de la forêt adoptent des angles étranges, forment des coudées, des arcs de cercle, font des zigzags de gauche à droite. D'autres ressemblent à des points d'interrogation retournés. Aucune logique ne semble leur donner la direction de leur pousse. Ce phénomène n'a pas encore été scientifiquement expliqué, mais visuellement, cela donne de grandes allées qui semblent nous accueillir avec des arbres qui s'écartent sur notre passage. Au nord et au sud du bois se trouvent deux villages, Baciu et Oia, qui ont vraisemblablement donné leur nom à la forêt. Mais la légende raconte qu'elle serait appelée ainsi, car c'est le nom d'un berger qui aurait disparu, lui et ses 200 moutons, au cœur du bois, alors qu'il transférait ses moutons d'une prairie à l'autre. Une autre légende dit qu'une jeune fille de 5 ans aurait un jour disparu au cœur de cette même forêt. Les recherches auraient été infructueuses et l'enquête abandonnée, lorsqu'un jour, 5 ans après sa disparition, la petite fille aurait refait surface, avec les mêmes vêtements, dans le même état que lorsqu'elle avait disparu. Évidemment, ces histoires sont de pures légendes et je n'ai pas trouvé la moindre trace qui pourrait valider leur véracité. Mais la forme des arbres et l'étrange silence qui semble régner dans ce contexte naturel ont visiblement donné des idées à certains. Les rumeurs contemporaines autour de Oiabaciu remontent aux années 1950. À ce moment-là, un biologiste, Alexander Sift, rencontre, alors qu'il se balade tranquillement dans la forêt, ce qu'il qualifie comme un genre d'ectoplasme. Il le prend en photo et, une fois qu'il la développe, trouve que l'entité a une forme particulièrement étrange, voire surnaturel. Curieux de voir s'il peut en découvrir d'autres, il retourne dans les bois et voit effectivement d'autres formes. Parfois, il prend simplement le paysage en photo et ne voit les fantômes qu'au moment du développement. Alexander Sift rencontre, au fil de ses années d'exploration, Adrienne Patroute, lui aussi très intéressé par les phénomènes se déroulant à Oyabachu, et les deux vont photographier, dans les années 60 et 70, ce qu'ils considèrent comme relevant du paranormal. Alors j'ai consulté ces photographies sur le web, un recueil d'environ 150 d'entre elles existe, et est consultable gratuitement sans trop de difficultés. On y voit de tout, des supposés UFO, des ectoplasmes aux contours indéfinis qui ressemblent à de belles taches sur la pellicule, de grandes lumières au-dessus des arbres, bref, un pot-pourri d'apparitions, tel qu'on a pu en parler longuement dans cette émission.
Est-ce qu'il y avait des orbes?
Pas à proprement parler, pas des orbes, mais des choses en effet qui s'en rapprochent de jolis halos lumineux au-dessus des arbres notamment. Beaucoup de ces photographies ont été prises à un endroit précis de la forêt. Une clairière presque ronde au sud-ouest des bois qui attise particulièrement la curiosité des ufologues et des superstitieux. Cet espace a un nom, il s'appelle le Poyana Rotunda et se voit attribuer le surnom tout à fait terrifiant de Dead Zone. On raconte que si cet endroit est parfaitement circulaire et qu'aucune végétation ne semble y pousser, c'est parce que la zone peut devenir spontanément radioactive ou extrêmement magnétique, car elle accueillerait de temps à autre un vaisseau extraterrestre.
Tu veux dire que là, on a vraiment un pot pourri parce qu'on va avoir des ovnis et des fantômes.
On va avoir des ovnis, des fantômes, des apparitions, des gens qui ne se sentent pas très bien, des ectoplasmes, de la folie, de à peu près tout ce que l'on peut imaginer comme relevant du surnaturel aurait été observé dans cette forêt de Oyabachu.
C'est vraiment le lieu le plus paranormal du monde alors.
Ouais, en apparence, je pense qu'on peut dire ça. Parce que, évidemment, je vous avoue que après m'être longuement renseigné sur cette forêt, je suis un tout petit peu déçu. En fait, en lisant les nombreux textes de blogs notamment, puisque c'est surtout de ça qu'il s'agit sur Oyabachu, je m'attendais à un espace immense et isolé, mais ce n'est pas du tout le cas. La forêt est en réalité de petite taille. En termes de surface, elle mesure environ 250 hectares en tout. Elle forme en fait un croissant qui, à son endroit le plus épais, mesure 1 km de large. Évidemment, tout le monde rappelle que la forêt se situe en Transylvanie, comme je n'ai pas oublié de le faire en début de cette histoire, même s'il s'agit d'un nom, Transylvanie, qui est avant tout historique, qui active énormément d'imaginaires assez sombres, mais ce n'est pas particulièrement intéressant de rappeler qu'elle se situe en Transylvanie, puisqu'elle n'a aucun rapport avec les légendes locales, notamment autour de Dracula et des vampires.
Il faut préciser que la taille de la Transylvanie, c'est titanesque. Hein.
Oui, c'est ça. Ça fait la taille d'un petit pays. Hein. Pour ce qui est des deux comparses, qui ont été les deux principaux moteurs des rumeurs sur Oyabachu, on a tendance à les faire passer pour de grands chercheurs pour valider leur thèse, valider leur texte également. En réalité, on ne trouve trace de Alexander Swift que dans des blogs, jamais dans des revues. Je précise que l'homme est mort en 1993, et qu'il n'a à ma connaissance pas publié de livre qui traite de la forêt de Oyabachu en dépit de ses qualités, disons, de biologiste, bien que, encore une fois, je n'ai pas pu vérifier cela sur aucun des moteurs de recherche scientifiques. Donc, chaque fois que son nom apparaît dans un moteur de recherche, il est toujours accolé, donc, comme je disais, un texte de blog sur la forêt d'Oyabachu, et la seule occurrence que j'ai pu trouver dans un texte notamment journalistique se trouve être un site qui, après vérification, évidemment, certains titres m'avaient mis la puce à l'oreille, était un site pro-Trump qui flirte complètement avec le conspirationnisme. Alors que, de son côté, par exemple, Adrian Patrout, on peut le retrouver, il a en effet un doctorat et le statut de professeur. Il enseigne la physique aujourd'hui à l'université publique de Cluj-Napoca. Il a une activité scientifique autour notamment de la datation d'arbres anciens. C'est un chimiste, et c'est un chimiste qui est également président et membre de la Société roumaine de parapsychologie. Et ses écrits sur la forêt sont en réalité assez peu nombreux, surtout ils ne sont pas traduits. L'homme a 4 ouvrages en parapsychologie qu'il a publiés en 1991, 1992, 1993 et 1995, et seulement le dernier traite de la forêt de Oyabachu. Il s'agit d'écrits qu'on aurait du mal à qualifier de scientifiques, il n'utilise apparemment pas du tout ses connaissances en termes de science, il ne théoriserait pas forcément ce qu'il a vu avec des concepts qu'il connaît, mais il essaie surtout de raconter des récits de choses qu'il aurait observées. Et ce professeur milite, Sachez-le, pour que des cours en parapsychologie, alors la parapsychologie, contrairement à ce que son nom peut laisser supposer, ce n'est pas une discipline universitaire. Hein. Il y a psychologie dedans, para ouais, autour, mais c'est ça ne constitue pas une discipline universitaire. C'est pour désigner tout ce qui est d'ordre de phénomène de la psyché humaine que l'on n'expliquerait pas trop. Donc c'est pour parler de paranormal. Il voudrait que des cours de parapsychologie donc soient donnés au sein de l'université publique. Il se plaint souvent que les fonds publics ne soient pas réattribués à la parapsychologie. Il voudrait notamment pouvoir faire des recherches sur ce sujet en Roumanie. En réalité, il est aujourd'hui une des dernières personnes à continuer à parler de paranormal pour la forêt, car toutes les autres personnes qui ont observé des phénomènes sont décédées. Alors évidemment, les personnes un tant soit peu complotistes vont vous dire que si un tel est décédé dans un accident de voiture et qu'un autre est décédé dans un accident d'avion, c'est étrange.
C'est parce qu'ils en savaient trop.
Ils en savaient trop et la forêt a peut-être voulu s'en débarrasser. On ne tombera pas là-dedans. Il s'avère tout simplement que ces personnes ont commencé leurs recherches dans les années 60 et 70 et que, la vie faisant, certaines malheureusement sont décédées. Ensuite, pour ce qui est de la Poyona Rotunda, il s'agit en fait d'une clairière, donc cette fameuse dead zone que l'on considère comme parfaitement circulaire et qui serait le lieu d'accueil des ovnis, eh bien n'est pas dénuée de toute végétation. Il s'avère qu'en fait, l'herbe et les fleurs poussent. Tout ce qui n'y pousse pas, ce sont des arbres. Pire, cette clairière qu'on présente comme parfaitement circulaire ne l'est pas du tout. En fait, il suffit d'aller faire un tour sur Google Maps pour se rendre compte qu'elle forme un cercle tout à fait imparfait, qu'on peut peut-être estimer comme étant parfait une fois qu'on est à l'intérieur, mais une vision du dessus permet de voir que ce n'est pas du tout le cas. Aussi, le fait qu'il n'y ait aucun arbre qui y pousse peut s'expliquer de dizaines de manières différentes, profondeur des nappes phréatiques, qualité des sols, des minéraux qui s'y trouvent, et les clairières sont des phénomènes tout à fait naturels que l'on retrouve à différents endroits de la végétation. Certains voudraient l'expliquer par une activité magnétique ou même radioactive anormale, mais même dans les lieux radioactifs, et il faut le rappeler, la végétation continue de pousser, donc on voit difficilement comment cela pourrait être un argument. Des vidéos postées sur YouTube ou même des émissions de télévision tentent d'enregistrer dans la forêt d'Oyabachu des lumières étranges, mais celles-ci proviennent souvent de l'extérieur, vu que la forêt est réellement petite et est entourée de routes, ou mieux encore, d'un aéroport qui se situe à moins de 10 km et dont la forêt est en fait un point de survol.
Ouais, donc en fait, contrairement à la forêt d'Aokigahara dont on avait parlé dans Inspiré de Ferrel, la végétation n'est pas assez dense pour cacher la lumière qui vient de l'extérieur.
Ça dépend évidemment des points de la forêt. Si on se situe tout au milieu, c'est une forêt qui est légèrement en pente, qui est sur un vallon, si on se situe au milieu, ça cache grosso modo bien les lumières de la route ou les lumières extérieures à la forêt. En revanche, dès qu'on n'est pas au centre, il y a de fortes chances pour qu'on voit des lumières, tout simplement des habitations, des villages qu'il y a autour. Dans une émission sur la chaîne Travel Channel, une équipe de Ghost Adventures est partie au cœur de la forêt et j'ai pu regarder cette émission qui a heureusement été réuploadée sur YouTube il y a assez peu de temps. L'équipe a bien du mal à mettre quoi que ce soit d'intéressant en scène. Lorsqu'ils observent finalement une lumière, ils finissent par abandonner sa piste, puisqu'ils ne trouvent finalement à peu près rien au bout. C'est peut-être ça le plus intéressant dans cet endroit, c'est qu'il s'agit surtout d'une forêt où des youtubeurs font des vidéos, et j'en ai regardé quelques-unes pour voir ce qui se disait et pour voir comment cela a été mis en scène, et aussi pour voir l'intérieur de la forêt, comment elle était agencée et quel type de végétation il pouvait y avoir. Et la seule chose qu'on peut en déduire, c'est que c'est une forêt qui sert avant tout à faire des vues et à, disons, monétiser certaines vidéos sur YouTube un petit peu sensationnelles. C'est surtout une forêt qui abrite des légendes urbaines et qui alimente des récits fantastiques locaux, mais on est très loin, en effet, de la forêt d'Aokigahara, comme tu le mentionnais, que ce soit par sa densité ou ne serait-ce que par ce qui s'y passe. On est aussi sur un cas qui combine un peu tous les types de légendes, puisque si vous écoutez les récits à droite à gauche, vous entendrez parler de crop circles, de champs électromagnétiques qui n'ont jamais été scientifiquement mesurés, des traces de pas étranges que l'on attribuerait à des géants. Mon hypothèse, c'est sans doute que toutes ces personnes ont été absorbées par la beauté des arbres et par sa végétation, parce qu'il faut le rappeler, les arbres ont une forme particulièrement étrange, et c'est quelque chose qui est en effet peut-être plus compliqué à expliquer. Évidemment, comme tu t'en doutes Mathias, des organisations ont tenté de monétiser des tours organisés de jour et de nuit dans la forêt, une société notamment The Aoya Battu Project, n'y voyez aucune référence au Blair Witch Project évidemment, organise des bivouacs et des tours qu'ils font évidemment payer aux amateurs de sensations fortes qui, sans doute comme sensations, ne retrouvent finalement que les quelques champignons que l'on peut voir au pied des arbres. Je pense qu'on peut conclure en disant que quand on recense autant de tentatives diverses et approximatives d'apporter du mystère là où il n'y en a pas, ça commence à se voir. Et la forêt d'Aoya Battu, soi-disant une des plus hantées du monde, ressemble avant tout à un chouette coin pour les balades.
Eh ben écoute, là, vu cette démonstration, je pense que l'affaire ne peut être que classée.
Écoute, je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement. J'ai essayé de chercher la petite fibre fantastique, mais en réalité, en observant les photos des deux chercheurs, c'est difficile de croire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on est entre la tâche sur l'objectif, le chapeau lancé en l'air pour simuler un ovni, on n'est pas sûr quoi que ce soit de tangible, et quand on se rend compte que même les informations les plus basiques, comme la soi-disant circularité de la prairie, ne sont même pas vérifiées, on se dit que pour tout le reste, ça semble un petit peu compliqué.
Ce qui est assez fou, c'est que moi, j'avais jamais entendu parler hein, de cette forêt en Transylvanie. C'est
oui.
Ça qui est drôle.
Ça aussi, ouais.
À chaque fois, il faut bien préciser, alors que la Transylvanie est immense et que en fait, c'est un point isolé quelque part en Transylvanie.
Et,
mais bon, c'est
et
pas,
puis surtout, ce n'est pas une région administrative
c'est
existante.
Pas vampirique.
C'est une région historique, c'est un nom historique, mais c'est absolument pas un nom administratif ou qui a une quelconque réalité. C'est un vieux nom historique qu'on aime rappeler pour activer certains imaginaires, comme je l'ai moi-même fait au début de l'histoire, et comme la plupart des posts que j'ai pu lire aiment le faire également, c'est-à-dire que ça aide à poser une ambiance. En réalité, si on va aux alentours de la forêt, il y a peu de chances qu'on croise quoi que ce soit d'un imaginaire transylvanien, disons.
Mais c'est vrai, comme tu le disais, j'ai l'impression que c'est vraiment une création des blogs et des youtubeurs que cette forêt-là, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu vas sur Internet, il y a souvent marqué « oui, une des forêts les plus hantées du monde », mais en vrai, si tu omets les témoignages de youtubeurs et de blogueurs, tu te rends très vite compte qu'il ne reste plus rien, quoi.
C'est très compliqué. D'ailleurs, au début, j'ai commencé à chercher du côté des légendes de la petite fille qui avait disparu. Alors, la légende est très chouette, hein. Une petite fille qui disparaît, des recherches qui sont organisées, elle réapparaît 5 ans plus tard avec les mêmes vêtements, dans le même état, sans avoir vieilli. D'ailleurs, chose qui varie aussi un petit peu suivant les légendes, c'est que des fois, elle a les mêmes vêtements, mais elle a vieilli de 5 ans. D'autres fois, elle avait le même âge. Bref, ça valide aussi, ça sert à valider d'autres choses que je n'ai même pas mentionnées, mais censé avoir un portail entre différentes dimensions ou des distorsions temporelles aussi. C'est quelque chose qui revient très souvent, des distorsions temporelles qui se passeraient au cœur de la forêt, des appareils électriques qui cesseraient de fonctionner. Évidemment, rien de tout ça n'a été purement vérifié. Seuls quelques youtubeurs et quelques émissions de télé à sensation filment à l'intérieur de la forêt pour vérifier des choses qui, évidemment, ne sont pas vérifiables.
Affaire classée, donc.
Affaire classée.
La sorcière de Rochefort. Dans les ruines d'un château breton, niché sur une colline du village de Rochefort-en-Terre, vivait autrefois une vieille dame à l'allure effrayante. Naya la sorcière a terrifié de nombreux paysans de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Les habitants des environs lui prêtaient d'inquiétants pouvoirs et la soupçonnaient même de se rendre en enfer à sa guise. L'histoire de Naya, la sorcière de Rochefort-en-Terre, a été rapportée pour la première fois dans le Wide World Magazine en octobre 1899. Cette revue britannique mensuelle, qui a existé d'avril 1898 à décembre 1965, était une des meilleures publications pour découvrir les nouvelles insolites de ce monde. Bien des auteurs y ont participé, on peut citer par exemple l'incontournable Arthur Conan Doyle, ou bien le journaliste Henry Morton Stanley, connu pour avoir cherché et trouvé l'explorateur disparu David Livingstone. L'auteur qui nous intéresse aujourd'hui est français. Il s'agit de Charles Géniaud, né à Rennes en 1870 et grand écrivain du début du XXe siècle. Romancier et photographe vivant à Montmartre en cette année 1899, il avait 39 ans et restait encore très attaché au folklore de sa région d'origine. Alors lorsqu'il a appris l'existence, un soir, dans une auberge de Rochefort-en-Terre, qu'une sorcière habitait les environs, il a forcément demandé à en savoir plus. Dotée de pouvoirs magiques, la sorcière aurait notamment eu le don d'ubiquité. À plusieurs reprises, Des villageois l'auraient aperçu à plusieurs endroits très éloignés les uns des autres, et ce, dans la même journée. Pour eux, il était impossible qu'une vieille dame se déplace aussi vite, à moins qu'elle ne sache voler. Un artiste de passage à Rochefort a d'ailleurs apporté cette tentative d'explication à Charles Géniaud. Je cite « Les habitants de Rochefort vous diront que Naya se déplace sur un balai à travers les airs, et peut-être même sous le sol. Quand elle fait ça, c'est qu'elle ne veut pas qu'on la voie. » Intrigué, à juste titre, par le témoignage de cet artiste, Charles Géniaud s'est donc mis à son tour sur les traces de Naya Kermadec, l'inquiétante sorcière de Rochefort. Il a commencé à son tour à interroger les locaux, qui lui ont fait d'étranges confidences. La légende raconte que la famille de Naya, les Kermadec, connaissaient d'incroyables secrets que lui aurait soufflé un mystérieux esprit des ombres. Naya aurait été le dernier membre de ce clan tourné vers l'occulte. Le temps ne semblait pas avoir de prise sur elle. Les plus vieux villageois de Rochefort-en-Terre disaient l'avoir toujours connue telle qu'elle était en 1899, c'est-à-dire une vieille dame inquiétante, aux vêtements ternes et aux regards vitreux. Un jour, un paysan a raconté à Charles Géniaud que la sorcière avait saisi devant lui des charbons ardents à pleine main. Elle les avait ensuite brisés entre ses doigts, sans ressentir la moindre douleur ou subir la moindre brûlure. Les commerçants de Rochefort-en-Terre ont assuré que Naya avait un autre pouvoir. Elle ne leur avait jamais rien acheté et n'avait jamais été vue en train de manger ou boire. La sorcière aurait assuré qu'elle n'avait pas besoin de s'alimenter. « Pourquoi faire ? » a-t-elle demandé. « Est-ce que les anges mangent ? Nous n'en avons pas besoin non plus. » Si Naya disait « nous », c'est parce qu'elle n'était pas seule, selon elle. Elle disait avoir à ses côtés un mystérieux esprit, Gnami. Cette entité immortelle, invisible et surpuissante vivait en elle, la rendant, selon ses dires, immortelle. Elle serait également à l'origine de ses pouvoirs. Naya pouvait, dit-on, contrôler cette entité et lui confier des missions. Lorsqu'un paysan venait réclamer son aide, la sorcière invoquait son esprit avec un rituel, en jetant des herbes dans les flammes et en criant le nom de Gnami. Elle écrasait ensuite les braises à main nue et livrait ses conseils comme un oracle ou une soigneuse. Figure ambivalente, Naya la sorcière attirait autant qu'elle effrayait. Charles Géniaud a recueilli plusieurs histoires inquiétantes qui ont donné son aura étrange à la vieille dame. À Pluherlin, un petit village près de Rochefort-en-Terre, Naya se serait rendue sur les lieux d'un incendie. Un jeune homme désespéré n'arrivait pas à retourner dans sa maison ravagée par les flammes pour sauver son père. Le vieil homme, alité, était condamné. C'est alors que la sorcière se serait approchée du garçon en larmes et lui aurait murmuré quelque chose à l'oreille. Le jeune homme aurait acquiescé aux paroles de Naya et serait ensuite entré dans la maison en feu, avant de ressortir avec son père dans les bras. Il aurait par la suite sombré dans l'alcoolisme et vécu dans une profonde mélancolie jusqu'à la fin de sa vie. Pour les habitants de Pluherlin, il était évident que Naya lui avait fait vendre son âme au diable pour sauver son père. La sorcière vivait dans les ruines du château des Rieux, à Rochefort-en-Terre. Situées sur une colline rocailleuse, elles abritent des souterrains et d'anciens passages secrets que Naya semblait connaître par cœur. Mais pour les habitants du village, les entrailles de Rochefort avaient également un accès direct vers une porte des enfers, que la sorcière empruntait à sa guise pour offrir au diable les âmes de jeunes gens morts dans le péché. Une nuit d'hiver, un grand feu s'est échappé des souterrains, effrayant une bonne partie de la population. Ce soir-là, une femme de mauvaise réputation venait de mourir. Il s'agissait sans doute d'un simple accident de la part de Naya qui avait l'habitude d'allumer des feux dans les ruines basses du château pour se chauffer. Mais la légende a pris le dessus. La sorcière avait forcément ouvert la porte des enfers pour laisser passer l'âme de la pécheresse. Après avoir obtenu toutes ces informations, Charles Géniaud s'est rendu sur les ruines du château des Rieux en quête de la fameuse porte des enfers. À peine arrivé, il a distingué une silhouette à la fois laide et majestueuse. Voici sa description pour le Wide World Magazine. Ses yeux inspiraient l'effroi. Ils étaient creux, laiteux et vitreux comme ceux d'un mort. Ses grandes mains maigres et osseuses reposaient sur un bâton à épines, et une sorte de voile sans couleur couvrait sa tête et ses épaules, tombant jusqu'à ses pieds. De longues mèches de cheveux blancs sortaient, emmêlées de sa capuche. Son visage ridé était marqué par une expression d'intelligence, encore plus frappante que sa laideur. D'une voix profonde, à la fois douce et puissante, Naya la sorcière lui a dit de s'avancer. « N'aie pas peur, mon garçon. » Approche. Charles Géniaud a fait quelques pas en avant et la sorcière lui a parlé de son esprit Gnami. Elle lui a dit « Gnami est puissant. Gnami défie le paradis. Il est plus puissant que la mort. » Curieux, Charles Géniaud lui a posé beaucoup de questions en rapport avec ce qu'il avait entendu de la part des villageois. Naya lui a tout confirmé, même lorsqu'il lui a demandé si elle était bien immortelle. Charles a fini par prendre congé, mais est revenu le lendemain avec son appareil photo. Et cette fois, c'est elle qui est venue à sa rencontre par surprise. Alors qu'il était en chemin vers le château, Charles a brusquement entendu « Bonjour, mon garçon ». Lorsqu'il s'est retourné, il a vu Naya à l'orée des bois, les bras levés. Dans cette position, elle ressemblait à un vampire d'un vieux film fantastique. Charles, d'abord effrayé, lui a demandé de garder la position pour la photographier. C'est ce qu'il a fait, et c'est aujourd'hui un des plus célèbres, et surtout des seuls, clichés de Naya la sorcière. Charles Géniaud en a réalisé d'autres ce jour-là, qui ont été publiés dans le Wild World Magazine et ont plus tard été vendus sous forme de cartes postales. Une fois les photos prises, Charles Géniaud a pu s'entretenir pour la deuxième et dernière fois avec la sorcière. Au bout d'un moment, Naya a semblé s'endormir. Alors que ses yeux étaient fermés et que sa bouche était fermée, Charles a soudain entendu une voix derrière lui. Teskdami, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Naya lorsqu'elle a fait mine de se réveiller. Avant de partir, Charles lui a demandé, comme l'ont fait de nombreux villageois avant lui, de lui lire l'avenir. Si elle ne lui a pas dit grand-chose sur son futur, elle a en revanche évoqué un souvenir de son passé. Ses voyages en Algérie, dont il n'avait pourtant parlé à personne. C'est donc à moitié convaincu et particulièrement troublé par les pouvoirs de la sorcière que Charles Géniaud a quitté la Bretagne et rédigé son grand article. Depuis, on a perdu la trace de Naya la sorcière. Les personnes qui arpentent les ruines du château aujourd'hui ne l'aperçoivent jamais. Il est évidemment fort possible qu'elle soit morte. À moins que la légende dise vrai et que Naya l'immortelle soit encore là, dans les souterrains de Rochefort en Terre, prête à ouvrir la porte des enfers. Alors, cette histoire est bien jolie, mais évidemment, hein, Naya la sorcière est sans doute morte à l'heure qu'il est. Naya Kermadec n'était peut-être pas sa vraie identité d'ailleurs, et comme on ne connaît pas sa véritable identité, il est très difficile de vérifier si un avis de décès existe.
On a un témoignage en fait, c'est ça? On a un grand témoignage de ce Charles?
Ouais, de Charles Géniaud. Ouais.
D'accord, ok.
Alors, de Charles Géniaud, et surtout qui semble être validé localement. C'est-à-dire que, comme je vais t'en parler, à Rochefort-en-Terre, c'est une vraie figure, Naya Kermadec.
D'accord.
Mais quasiment toute sa légende se base sur cet article à l'origine dans le Wild World Magazine. Alors, je vais d'abord commencer par débunker un petit peu. J'ai globalement raconté cette histoire sans trop jouer les sceptiques, mais il faut que je précise que dans l'article original de Charles Géniaud, il y a un personnage qui nuance un peu l'histoire. C'est un médecin de Quettenberg, un village qui est pas loin de Rochefort-en-Terre, et il avait une explication sur quasiment tous les pouvoirs de Naya la sorcière. Premièrement, sur le don d'ubiquité, là c'est assez évident, on peut se dire que Naya était juste rapide, et qu'en plus, comme elle connaît des passages secrets souterrains, elle peut se déplacer assez facilement, et elle n'a pas du tout le don d'ubiquité, c'est juste qu'elle peut prendre des raccourcis.
Puis c'est quoi qu'on appellerait ubiquité dans ce cas-là? C'est quelqu'un qui...
qu'elle puisse être...
à deux endroits différents, mais à quel... Avec quel temps de,
bah justement, c'est là que c'est compliqué, parce que le temps n'est jamais évoqué. Mmh. Et c'est ce que j'allais dire également, c'est potentiellement largement exagéré par les témoins.
Ouais.
Cette chose-là. Moi, sur le don d'ubiquité, je suis toujours un petit peu... J'ai toujours beaucoup de doutes, parce que voilà, entre les exagérations des gens et sous-estimer le fait qu'une personne puisse être simplement rapide, c'est, voilà, ça peut souvent expliquer les rumeurs de don d'ubiquité. Alors... Elle n'avait pas besoin de boire et de manger. Bon, bah, ça, c'est simple. C'est pas parce qu'on ne l'a pas vue qu'elle ne le fait pas. Simplement, elle peut se nourrir quand les gens ne la regardent pas, comme la plupart des gens, finalement.
C'est vrai, ça fait un petit peu longtemps que je t'ai pas vu boire et manger, Mathias. Je commence à avoir des petits
doutes. Mais c'est parce que je suis respirarien. Je me nourris d'air et de la lumière cosmique. J'ai vu ça à la télé l'autre jour, les gens qui se nourrissent de la lumière cosmique. Ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, ça m'a fait rire, et puis après j'ai eu peur, parce que c'est quand même un peu inquiétant, vu qu'ils recrutent des gens pour faire pareil qu'eux.
Ah, d'amour, mais pas d'eau fraîche du coup, juste de lumière cosmique, c'est un petit peu...
Non, juste la lumière. Et l'explication que donnait la personne que j'ai vue à la télé, c'était... Enfin, c'est pas parce que la science ne s'est pas penchée dessus que c'est pas vrai.
Et évidemment, après tout.
Et la personne dit à la caméra, oui, moi je ne mange pas, et c'est tout à fait possible de ne pas boire.
Ah, c'est intéressant, oui, ça, dis donc.
Bien sûr, donc bah, visiblement Naya la sorcière le faisait, à peu près. Peut-être la première respirarienne de France. En tout cas, les autres choses. L'incendie après la mort de la jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'était pas les portes de l'enfer. On suspecte un simple accident de chauffage en hiver, tout simplement, qui a fait sortir les flammes des souterrains, puisqu'elle vivait dans les souterrains du château, puisque je rappelle que c'était des ruines, donc elle ne pouvait pas vivre à la surface. Elle était forcément, pour avoir un petit peu chaud en hiver, se mettre dans le sous-sol.
On sait de quand datait le château ?
Alors, je ne l'ai pas cherché, mais c'était un vieux château s'il était en ruine. Hein, donc,
Parce qu'il était en ruine à la fin du 19e siècle, c'est ça?
Oui, je crois que c'était un château de l'époque médiévale. Si
d'accord,
je me
ok.
Donc, possédé par un esprit. Alors voilà, bah, les voix pourraient relever tout simplement de talents de ventriloque. Selon les habitants des environs, en fait, elle connaissait certaines techniques de bonimenteur et d'artiste de rue. Donc, c'est possible que la ventriloquie en fasse partie, par exemple, pour expliquer la voix de Gnami. Manipuler des objets brûlants, c'est pareil, en fait. Elle avait une astuce, c'est ce qu'explique le médecin. Elle utilisait une substance pour signifuger les mains et pas ressentir la brûlure. C'est sans doute pour ça qu'elle refusait d'ailleurs que, en fin de séance, les gens lui serrent la main, parce qu'elle devait sûrement avoir des résidus sur les mains. Est-ce qu'elle lit l'avenir ? Eh ben, écoute, là sur ça, j'ai pas vraiment d'explication. C'est le seul point où voilà. À part peut-être du mentalisme ou du cold reading, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais en fait, le docteur de Kettenberg a dit qu'elle était née d'un père rebouteux. Donc les rebouteux, c'était en quelque sorte comme des charlatans qui soignent, qui font semblant de soigner les paysans. Ça aurait pu être un bon formateur en fait pour lui apprendre des techniques pour qu'ensuite elle se fasse passer pour une sorcière. Sauf que Naya ne gagnait pas sa vie comme ça.
C'est ce que j'allais te demander. J'allais dire, mais quel intérêt elle aurait eu à faire tout ça?
C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi elle se serait fait passer pour une sorcière? Est-ce que c'était juste une vieille dame excentrique? Je ne sais pas. C'est vraiment le point. Si elle voulait se faire passer pour une sorcière, pourquoi? Je n'ai pas d'explication. Après, il y a une autre hypothèse qui est intéressante, c'est que tout ça n'est jamais existé, que ce soit une invention pure et simple de Charles Géniaud. Je précise, je vais revenir un petit peu sur le personnage de Charles Géniaud. Il a réalisé, 6 ans avant cet article, des cartes postales de monuments et de scènes folkloriques, où il se mettait en scène avec un ami, ils étaient habillés en costume traditionnel, ils se faisaient passer pour des gens vraiment de la tradition, et il mettait en scène des photos insolites et il les vendait ensuite. Donc ça veut dire qu'il avait déjà cette expérience de créer des photos, on va dire, insolites, qu'ensuite il va vendre sous forme de cartes postales. Et justement, le fait qu'il ait vendu des cartes postales de Naya, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et comme c'était un futur romancier, il aurait pu complètement inventer une histoire, un storytelling autour des photos pour mieux les vendre. Et d'ailleurs, il faut que je précise que le Wide World Magazine s'était déjà fait avoir par un faux article l'année précédente. Ils avaient fait en août 1898 les aventures de Louis de Rougemont, qui racontait en fait la vie apparemment incroyable d'un homme qui avait passé 30 ans dans l'outback australien. Il avait vendu d'ailleurs comme l'histoire la plus incroyable qu'un homme ait jamais vécu et raconté. Sauf qu'il s'agissait d'un hoax, et la crédibilité du journal en avait été affectée. Donc, ils auraient pu se faire avoir une deuxième fois, c'est possible. Donc, le fait que Naya soit une pure invention, c'est une possibilité. On peut pas le nier, c'est une possibilité. Mais moi, je crois en la bonne foi de Charles Géniaud, puisque ça avait l'air d'être un passionné de folklore. Je pense qu'il a juste rapporté l'histoire qu'on lui a racontée. Avec plusieurs sons de cloche, ça il faut bien le préciser, hein, puisque lui-même débunk légèrement certains trucs dans son article, donc voilà, il y a une certaine rigueur quand même. Et bon, il a raconté une version légèrement différente dans l'almanach de l'Action libérale populaire de France en 1903. C'est une autre vue. Et il a aussi fait un livre qui retrace d'autres histoires étranges de France où il y a des détails qui diffèrent un petit peu, mais les grands axes restent les mêmes et les changements, ça relève vraiment du détail, quoi. Donc globalement, l'histoire se tient même sur la longueur. Donc voilà, je pense qu'il aurait commis plus d'imprudence sur des choses en la racontant à plusieurs reprises, quoi. Mmh. Quand je te parle de points de détail, c'est que, par exemple, dans l'article Whiteboard, il va dire que c'est un artiste qui lui a parlé de Naya en premier, et dans son livre plus tard, donc il sort, je crois, 6 ans plus tard, il va dire que c'est en fait la serveuse de l'auberge qui lui en a parlé.
Ah oui, quand même, c'est des points de détail, mais un petit peu...
Oui, mais après, vu que ça se passe toujours dans une auberge, lequel des deux a vraiment lancé la discussion, tu vois, tu peux voir comment ça se passe. Ça peut être, ça peut être la serveuse qui dit, vous avez entendu parler de la sorcière machin, et l'artiste qui fait, mais oui, il y a des gens qui m'ont dit ça. Ça peut être une discussion, en fait. Et donc, bon, pour moi, ça reste du point de détail, puisqu'on est toujours dans le même contexte de découverte, quoi. Alors, Naya, aujourd'hui, c'est une icône à Rochefort. Y a un musée qui porte son nom, le Naya Museum. Alors, c'est le musée des arts de l'imaginaire fantastique. Ce n'est pas le musée de Naya. Il porte son nom, mais c'est un musée plus général. C'est un musée qui a ouvert en 2015 au château de Rochefort-en-Terre. Il ne parle pas que de Naya, mais il y a un espace qui lui est réservé dans le musée. Et selon la communication du musée, seuls les curieux découvriront cet espace.
Ah, c'est-à-dire qu'il est caché.
Il faut ouvrir l'œil quand on le visite. Le Naya Museum, c'est un musée-galerie privé, hein, qui fait 500 mètres carrés, qui a 6 salles, notamment le fameux souterrain médiéval, un jardin, une boutique, évidemment. Il y a des œuvres en vente, il y a des conférences, des spectacles, et il y a même un escape game autour de Naya. Donc voilà.
Échapper en fait, à Naya.
Il y a une escape game que j'ai un petit peu envie de faire, pour tout avouer, qui n'est pas très cher. Alors, après, le truc, c'est que Rochefort-en-Terre a été classé village préféré des Français 2016, donc ils ont, sur le principe, pas forcément besoin de ça, mais le musée reste un gros atout touristique pour la commune, qui attire quand même pas mal de monde. Alors les prix, puisque je pense que tu vas me les demander, c'est 6€ l'entrée, donc c'est pas, ça va.
Pour le musée ?
Et 12€ pour l'escape game.
D'accord, je suis pas fait de benchmark pour les escape games, mais ça m'a l'air honnête.
En moyenne, on est à 2 fois plus pour les escape games. D'accord. Après, je pense que c'est pas un truc de fou non plus, hein, donc voilà, c'est pas...
C'est une vieille dame qui te poursuit dans les...
Alors, visiblement, c'est une histoire où il faut retrouver un objet mystique qui aurait soi-disant appartenu à Naya. Donc, on prend des grosses libertés avec la trame de base. Hein. Alors, attention, juste, si vous avez envie d'aller visiter le musée de Rochefort-en-Terre, consultez le calendrier sur le site internet. C'est pas ouvert tout le temps. Il y a des périodes de fermeture qui, parfois, peuvent durer une semaine ou une semaine et demie. Donc, checkez bien avant d'y aller si c'est ouvert. Ensuite, Naya, c'est l'héroïne de livres pour enfants aussi. Donc, on reste dans du local, hein, c'est des auteurs locaux, tout ça. Donc, Marie-Lise Leroux a publié deux livres, Babou a disparu en 2016 et La chasse à la sorcière en 2018. C'est deux romans pour enfants qui mettent en scène Naya. Il y a un petit business qui se lance aussi, puisqu'en fait, tu as les fameuses cartes postales de Charles Géniaud ont été rééditées et elles sont en vente, c'est bien précisé sur le site de l'Office de tourisme, elles sont en vente à l'Office de tourisme de Rochefort-en-Terre, pour ceux qui veulent ramener un petit souvenir. Et enfin, le récit de Charles Géniaud, donc celui d'origine, hein, du Wide World Magazine, a été remis en contexte, traduit, parce que donc Charles Géniaud l'avait écrit en anglais, hein, c'est une revue britannique. Donc le texte originel a été remis en contexte, traduit et imprimé en 2015 par un éditeur de Quettenberg, justement, donc juste à côté. Et si l'histoire vous intéresse et que vous voulez plus de détails que ce que j'ai donné, c'est vraiment le livre de référence. Il est petit parce que ça reste un article de presse à la base, hein, mais c'est très intéressant. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va peut-être se dire que l'affaire est entièrement classée. Pour moi, bon, c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il n'y a rien de paranormal et que c'était juste une vieille dame excentrique, voilà, qui jouait des tours
Et
à
puis
des paysans
qui
un
était
petit peu
assez
crédules.
maligne, qui avait tout un tas de tours et de techniques pour surprendre.
Voilà, moi c'est ma théorie. Après, je conçois totalement qu'on puisse, enfin, quand tu crois que la sorcellerie est réelle et que voilà, peut-être, pourquoi pas, ça peut être un bon exemple. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est juste une vieille dame excentrique qui aimait bien avoir cette image-là dans la commune aussi, quoi, qui est
Oui,
vue comme
oui.
la sorcière et que ça lui plaisait.
Ouais, ça devait la. Je pense qu'elle devait bien rigoler aussi, hein.
Ah oui, bien sûr. Oui. Et puis il y avait souvent des gens qui venaient la voir. Donc je pense que pour une vieille dame, tu vois, ça rompt un peu la solitude. Il y avait souvent, sur les photos, on voit par exemple des jeunes filles qui viennent la voir pour consulter leur avenir amoureux, tout ça. Donc ça permet de créer du lien social aussi. Donc il
Ouais.
y a ça qui est intéressant. Après, voilà, comme je le disais, le seul qui n'est pas tombé dans le panneau, c'est le médecin qui avait plus de connaissances forcément que les autres, surtout à cette époque-là. Et je pense que Charles Géniaud, lui, y a cru aussi, peut-être à moitié, en tout cas, puisqu'il avait le point de vue du médecin quand même, mais qu'il a juste voulu raconter ce qui était à ses yeux, et ce qui est objectivement, incontestablement, une très bonne histoire. D'ailleurs, c'est pas un hasard si cette histoire continue à perdurer aujourd'hui, qu'elle est rééditée, qu'elle est transformée dans des romans pour enfants, c'est parce que ça reste une très belle histoire, locale en plus, ce qui est très important dans une région aussi chauvine que la Bretagne.
Affaire classée donc.
Affaire classée.
Et on arrive désormais tout doucement à la fin de cette émission, mais avant de la terminer, évidemment, notre petite partie recommandation. Alors je vais me permettre de commencer, Mathias, puisque j'ai la parole, je vais la garder. Je vais
Je t'en prie.
je vais vous parler du coup de forêt. Je vais continuer à vous parler de forêt, puisque Oyabachu était une chouette forêt et qu'il se trouve que je joue à un jeu vidéo de forêt en ce moment, puisque je joue Projet Blair Witch, version jeu vidéo, qui est sorti le 30 août dernier sur, pour l'instant, PC, Xbox, si je dis pas de bêtises, mais qui devrait sans doute à un moment donné arriver sur d'autres plateformes. Et du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion. J'ai fait le lien complètement subjectif. Je me suis dit, allez, je joue à un jeu vidéo de forêt, on va continuer là-dessus. C'est bien, ça c'est un truc qui fonctionne bien aussi pour Halloween, hein, de se caler devant un petit jeu vidéo et de se passer la manette. En l'occurrence, Projet Blair Witch, alors c'est un petit peu particulier. D'ailleurs, vous allez voir à la fin, je vous spoil un petit peu, mais c'est une semi-roco en fait. C'est pas complètement une recommandation. Il a été présenté le jeu à la conférence E3 de Microsoft en mai dernier, de manière assez inattendue, surtout qu'il avait un bon petit segment. Et alors là, on s'est tous et toutes posé la même question. C'est quoi l'intérêt de faire renaître cette franchise? C'est quoi l'intérêt de réutiliser, de réemployer cette licence, alors que bah des jeux vidéo, il n'y a pas besoin de le marketer Projet Blair Witch, de l'appeler Projet Blair Witch pour faire un jeu vidéo de ce calibre-là. Et surtout, est-ce qu'il y avait encore des choses à dire dans cette licence? Alors, c'est développé par Bloober Team, qui ont notamment développé déjà, qui avaient travaillé sur Layers of Fear en 2016 et Observer en 2017, qui sont deux très chouettes jeux, surtout Observer. Là, en l'occurrence, dans Projet Blair Witch, on joue, c'est toujours à la première personne, Bloober Team a l'habitude de faire des jeux narratifs qui se jouent en première personne. Là, on joue un homme qui aide la police dans ses recherches pour retrouver un petit garçon dans la forêt de Blair. L'action se déroule en septembre 96 et on est du coup accompagné de Boulette, son chien, donc Boulette la balle en anglais, hein, pas boulette de viande, qui a d'ailleurs un vrai intérêt dans le gameplay, et on débute, le jeu débute comme ça, à la lisière de la forêt de Blair. Alors comme je dis, c'est un jeu qui se déroule entièrement à la première personne, et on va s'enfoncer progressivement dans la forêt en découvrant aussi que le bonhomme qu'on incarne a quelques soucis personnels. On va avoir des contacts avec l'extérieur via le téléphone portable, mais évidemment le cœur du jeu, ça va être que dans cette vue à la première personne, on va se perdre, s'enfoncer dans la forêt et avoir des visions, essayer de résoudre du coup cette enquête du petit garçon qui a disparu en découvrant des indices. L'illusion fonctionne au début, je serais tenté de dire, parce que, en fait, la forêt, c'est compliqué une forêt dans un jeu vidéo, je trouve que c'est toujours un bon prétexte, la forêt, parce que quand on est dans un bâtiment, on a toujours un moyen de se repérer. En général, dans un jeu vidéo, c'est assez simple, si on prend un mur et qu'on le longe, même s'il y a une faible luminosité, il y a de fortes chances qu'on arrive à forcément un point, un couloir, ou qu'on arrive à destination. Dans la forêt, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on voit qu'il y a des efforts dans la forêt pour la rendre un peu pas forcément très logique, pas forcément très symétrique ou dans laquelle on peut se perdre. Sauf que cette illusion qui fonctionne un petit peu au début et qui a fonctionné aussi un petit peu sur moi, on se retrouve quand même facilement vite à heurter des murs invisibles. On voit que la forêt, elle a ses limites. On peut pas l'explorer, on peut pas se perdre comme on voudrait. Alors, il y a quelques mécaniques sympas. Notamment un caméscope au travers duquel on peut regarder certaines séquences pour faire apparaître des objets qui seraient déroulés à d'autres moments. C'est-à-dire que si on, avec la bonne cassette, on regarde une séquence qui s'est déroulée dans le lieu dans lequel on est, on fait apparaître un objet qui est dans la vidéo de la cassette. Donc il y a tout un tas de petites mécaniques comme ça qui sont très sympas. Pareil avec le chien. Le chien a un intérêt dans le gameplay parce que c'est lui qu'on va souvent envoyer chercher des objets. C'est lui qui va nous alerter parce que une des qualités du jeu, c'est de pas mettre les objets en surbrillance. Souvent, on a ça dans pas mal de jeux, c'est-à-dire qu'il faut faire une enquête, trouver des objets. Là, les objets n'apparaissent pas, on va dire, de manière lumineuse au travers des feuillages. C'est souvent le chien qui va aboyer, il va falloir se repérer au son d'ailleurs, pour le coup. Petite mention quand même au sound design et à la localisation, à la spatialisation du son, qui est particulièrement réussie. Je vous conseille, si vous jouez à ce jeu, de jouer au casque, ça fait partie des choses qui sont les plus réussies dans le jeu. Et on va devoir se repérer avec les aboiements pour récupérer des objets, faire avancer l'enquête. Sauf que c'est un peu mais, c'est-à-dire que on va souvent être amené à faire grosso modo la même chose, la boucle de gameplay va être amenée à beaucoup, 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 beaucoup se répéter, et au bout d'un moment, ça se répète un peu trop pour qu'on ait une vraie sensation de peur qui s'installe. Tout tourne un petit peu en boucle, et c'est quelques bonnes idées de regarder à travers le caméscope, suivre le chien parfois quand il repère une piste, et suivre les aboiements du chien aussi lors des quelques affrontements du jeu, parce que des fois on a quelques petits affrontements où on a une créature qui nous harcèle dans la forêt, il faut suivre le sens des aboiements du chien pour pointer la lampe torche dans la bonne direction et affaiblir la créature. Ces petites choses-là, en fait, elles sont, même si elles sont très sympas, elles sont noyées dans un environnement qui est malheureusement trop linéaire, pas assez ouvert, on n'a pas assez une sensation de perte, et qui font que, en fait, on a finalement moyennement peur. Alors du coup, je serais tenté de dire, je me suis parfois un petit peu ennuyé dans le jeu. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyé, j'ai un peu cherché mon chemin, je me baladais à gauche à droite, mais finalement, après coup, je me suis dit, est-ce qu'un jeu vidéo Blair Witch, dans lequel on s'ennuie, c'est pas la meilleure adaptation possible du film Blair Witch, Mathias ?
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, on ne va pas recracher sur Blair Witch, encore une fois. Non, je pense qu'on l'a déjà suffisamment fait dans notre épisode d'Inspiré de faits réels sur le projet Blair Witch.
Oui, c'est sans doute vrai. Mais du coup, tout ça pour vous dire que... Oui, t'allais dire quelque chose ?
J'allais rappeler cette chose dont je ne suis pas forcément le plus fier, mais je suis peut-être une des rares personnes à avoir préféré le projet Blair Witch 2, le livre des ombres, au premier.
Voilà. Écoute, là, en l'occurrence, le jeu, il essaie de coller au lore. Il essaie de coller au lore et on a des objets à gauche à droite, des petits éléments qui viennent rattacher le jeu vidéo au lore du film Blair Witch. Donc je serais tenté de dire, parce que je sais pas trop à qui ce jeu vidéo s'adresse, les fans d'horreur. Il y aura beaucoup de choses dans les jeux que vous aurez déjà vu ailleurs. Les fans de Blair Witch, à la limite, est-ce que les fans de Blair Witch ont envie de jouer à un jeu vidéo, sont assez passionnés par la série de films pour se lancer dans un jeu vidéo comme ça ? Peut-être. Je sais pas trop à qui ça s'adresse, en fait, ce genre de jeu. Donc du coup, voilà, c'est une semi-roco. Je me suis pas senti particulièrement oppressé dans le jeu. Le doublage est sympa, le sound design est sympa. Mais encore une fois, on tourne beaucoup trop en rond dans les mécaniques de gameplay, et il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues à gauche à droite, et surtout quand on voit ce que Bloober Team a fait avant en termes d'ambiance dans Layers of Fear et en termes d'idées de gameplay et de narration dans Observer, On sait pas trop ce qu'ils ont fait là. C'est un petit peu étrange. Ils ont utilisé, sans doute, s'agissait-il d'un jeu de commande de la part de Microsoft qui voulait utiliser cette licence pour se faire un petit jeu d'horreur peut-être exclusif. Je sais pas du tout si ça sortira sur d'autres plateformes ou non. Et donc, du coup, voilà. C'est une semi-roco. Si vous aimez la forêt, si vous aimez les balades, parce que c'est un walking sim sans le sens négatif du terme qu'on peut attribuer à ce terme, mais c'est avant tout un walking sim assez gentillet, assez peu surprenant. Donc ma foi, si vous êtes fan de Projet Blair Witch ou de ce type de jeu, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Sinon, je dirais passez votre chemin et passez des heures sur un jeu pardon, qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle Outer Wilds et qui est pour moi mon gothi.
Eh bien écoute, ma recommandation culturelle sera un énorme coup de cœur pour toute une culture en fait, pour la Bretagne.
Waouh! Ah oui, ça c'est une sacrée recommandation. Tu recommandes la Bretagne?
Ouais, allez-y, vraiment. Enfin, si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y, c'est génial. Moi, j'y suis allé 2 ou 3 fois, je crois. J'adore cette région. Alors bon, on commence à me connaître gastronomiquement parlant déjà, c'est un petit paradis, hein, voilà,
Qu'est-ce que tu
entre
aimes en Bretagne, Mathias?
Kouign-Amann, Chouchen. Les fameuses crêpes et galettes. Et c'est surtout gastronomiquement des produits vraiment magnifiques. C'est vraiment une des plus belles régions en termes de terroir pour ça. Je veux dire, entre les couteaux, les salicornes, les fraises de Plougastel, enfin, t'as vraiment. Il y a un terroir de dingue en fait en Bretagne. Et pour ça me plaît énormément. La Bretagne, c'est aussi plein de légendes. Là, j'ai parlé de Naya aujourd'hui, mais il y a aussi Brocéliande. Il faudra qu'on en parle
Et
un jour.
oui, tout
Toute
à
la
fait, une
culture
forêt
celte.
encore.
La cité engloutie 10, les Korrigans, les Chats d'argent, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses en Bretagne. C'est une région qui combine en fait mes deux passions, qui sont la nourriture et les mystères. Donc c'est une des plus belles de France, donc je ne saurais que trop conseiller aux gens d'aller en Bretagne. Et la deuxième partie de cette reco, ben, c'est aussi en rapport avec la Bretagne, puisque on parlait de Naya, la sorcière de Bretagne. Je vais vous parler de Marianne, la série de Netflix, qui parle également de sorcellerie et de Bretagne.
C'est
Alors, je ne l'ai
vrai.
pas encore fini, hein. Je l'ai commencé parce que j'étais un petit peu intrigué. J'en suis à 3 épisodes au moment où on enregistre cette émission. Et j'aime beaucoup pour le moment. Je passe un très bon moment. Et c'est une série française, donc ce qui est assez rare pour être souligné. Une série d'horreur française, je crois que j'en ai peut-être jamais vu. Ah si, j'avais vu. Il y avait Les Témoins sur France
Ouais,
2, mais c'est pas
si,
vraiment de
il y
l'horreur,
en a
c'était
déjà
plus
eu.
policier.
Là, le truc, c'est que c'est aussi une série Netflix, donc du coup qui est accessible dans le monde entier. J'ai cru lire et voir que certains pays s'étaient pris un petit peu de passion aussi pour cette série. Ça a, à mon avis, pas trop trop bien pris en France, mais j'ai vu qu'à l'étranger ça avait marché. Pour ma part, j'ai terminé la saison de Marianne, donc je ne te spoilerai pas, je n'en parlerai pas. Perso, je suis assez mitigé. Il y a des trucs que j'ai plutôt appréciés, notamment le fait qu'il réemprunte beaucoup de ce qui s'est fait ces dernières années dans le cinéma d'horreur en général, et qu'il le mette à cette sauce un peu à la française. Après, à mon sens, on voit pas assez la Bretagne, en fait. On en a parlé un petit peu avant d'enregistrer. On voit pas assez de paysages bretons. J'avais envie de voir un peu plus de folklore breton. Mais bon, je te laisse continuer.
Et c'est vrai que sur le folklore, pour le moment, c'est pas très présent. On est vraiment sur de la sorcellerie, sur du paganisme. C'est pas voilà. Parce que ouais, donc le pitch, si vous ne connaissez pas, c'est donc une romancière de livres d'horreur qui retourne dans sa ville natale où en fait visiblement ce qu'elle écrit aurait pris vie. C'est-à-dire que dans ses livres, il y a une sorcière étrange qui s'appelle Marianne et visiblement elle aurait pris possession de quelqu'un dans sa ville d'origine. Donc elle va y retourner, et là il va se passer plein de choses. Et effectivement, comme tu le disais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, notamment sur les 3 premiers épisodes donc, que j'ai vus, le fait qu'on réutilise voilà, des choses qu'on a vues dans le cinéma d'horreur ces dernières années, et qu'on les réutilise bien. C'est-à-dire qu'il y a une vraie gestion des scènes d'horreur, ça fait vraiment peur à des moments. Après, c'est contrebalancé par des scènes qui se veulent humoristiques, qui fonctionneront, je pense, pas sur tout le monde. Moi, en tout cas, sur moi, ça a fonctionné, mais je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, ça.
Moi, en l'occurrence, je trouve que ça fonctionnait pas trop trop mal au début, mais qu'après, il y a dans la deuxième partie de la saison 1 que c'était placé à des moments pas forcément opportuns.
Ouais, alors que là, moi, sur les premiers, ça allait. C'était vraiment segmenté. Mais donc voilà, c'est une semi-roco, puisque je n'ai vu que à peu près la moitié de la saison. Mais en tout cas, moi, ça m'a, j'ai beaucoup aimé et je suis très heureux qu'il y ait une série française d'horreur sur Netflix. Que voilà, ça arrive très peu. Déjà que la situation du cinéma d'horreur en France
Oui.
c'est compliqué.
Il y a un problème. Hein,
série d'horreur aussi, c'est, voilà, c'est un peu plus difficile. Donc c'est bien que ça existe déjà. Et voilà, honnêtement, pour le moment, je passe un très bon moment.
Je pense qu'on peut aussi le recommander aux personnes qui, peut-être, qui seraient fans de Stephen King, parce qu'il y a des grosses vibes Stephen King, que Stephen King a lui-même adoubé la série. Comme étant,
oui.
par un tweet, comme étant proche de ce que lui aime faire, j'ai cru comprendre que lui avait apprécié la série. Donc bon, peut-être que ça, on peut le recommander aux personnes qui aiment cette vibe-là.
Oui, oui, complètement. Et pour terminer, pour rester un tout petit peu sur la sorcellerie, je n'ai pas encore lu, hein, puisqu'il sort le 16 octobre, en tout cas normalement le lendemain de la sortie de cet épisode, il y a Witch Please, grimoire de sorcellerie moderne qui sort. C'est un livre qui a été fait par l'illustratrice Digli et Taous Merakchi, alias Jack Parker, qui avait participé à notre live à la Gaîté Lyrique. C'était au premier Paris Podcast Festival. Alors bon, je l'ai pas encore eu entre les mains, j'ai juste pu voir quelques pages, mais bon, comme tout ce que fait Taous, ça devrait normalement être super.
On peut lui faire confiance. Eh bien écoutez, je pense qu'il est l'heure pour nous de se quitter. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @BDMlePodcast, sur Facebook, notre page Charles et Mathias. Vous pouvez toujours, et on ne peut que vous enjoindre à le faire, laisser des commentaires, où qu'ils soient, sur Twitter, sur Facebook, sur iTunes, évidemment. Quant à nous, je pense qu'on vous dit au mois prochain, pour le BDM, au début du mois prochain, avant évidemment pour Inspiré de Férel, puisqu'on a une nouvelle périodicité dans laquelle on alterne tous les 15 jours un épisode d'Inspiré de Férel et un épisode du Bureau des Mystères. Et il nous reste juste à vous dire au revoir.
Oui, on vous souhaite de joyeuses fêtes d'Halloween et d'ici là, d'ici le prochain numéro, essayez de ne pas manger trop de bonbons.